RFI.
Toujours à l'écoute de Radio France Internationale, et vous avez bien raison, il est 15h ici à Paris, 13h temps universel. C'est la dernière partie de RFI Midi. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette demi-heure consacrée à l'actualité du continent américain. Et on revient en longueur, évidemment, sur la décision de Joe Biden de ne pas se maintenir dans la course à la présidentielle américaine face à Donald Trump. On est en ligne avec notre correspondant à Washington et on va décrypter avec notre invité les conséquences financières pour le Parti démocrate après ce retrait de Joe Biden. Et puis l'actualité des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand. Et à la une, Benoît, la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe qui a présenté ce vendredi son service d'aide aux entreprises en difficulté.
Sans doute, hélas, être très sollicité car la situation de l'économie guadeloupéenne n'est en ce moment pas très florissante. Reportage à suivre.
A tout à l'heure, Benoît Ferrand. On vous appelle dans 20 minutes. Et d'abord le journal. Avec vous, Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Et à la une, le renoncement de Joe Biden et ses conséquences.
Oui, rattrapé par son âge et sa santé déclinante, le chef de la Maison-Blanche a donc jeté l'éponge après des semaines d'incertitude et de tâtonnement. La campagne présidentielle américaine vient de rebondir un peu plus de 3 mois du jour J, qui est maintenant pour prendre le relais côté démocrate. Joe Biden a désigné sa vice-présidente, Kamala Harris. Celle-ci s'est aussitôt déclarée prête à décrocher l'investiture démocrate lors de la convention du parti. Ce sera mi-août à Chicago. Qui est Kamala Harris? Son portrait avec sur place aux États-Unis David Thompson.
En 2003, quand elle remporte l'élection de district attorney procureur de San Francisco, Kamala Harris brise son premier plafond de verre. Jusqu'ici, tous ses prédécesseurs étaient des hommes blancs. Cette juriste de 39 ans, formée à l'université noire de Howard, est la fille d'une scientifique indienne et d'un économiste jamaïcain rencontrés à l'université de Berkeley durant le mouvement des droits civiques. Kamala Harris s'est toujours revendiquée de cet héritage. Premier flic de San Francisco, elle constitue un puissant réseau mondain au sein des grands donateurs démocrates de la ville qui la soutiendront tout au long de sa carrière. En 2010, elle est élue attorney général, ministre de la Justice de Californie. 6 ans plus tard, elle devient sénatrice du Golden State, le même soir que la victoire de Donald Trump à la présidentielle. Dès lors, Harris part pour le Sénat à Washington et c'est là qu'elle se fait remarquer du grand public en menant des auditions musclées des nouveaux membres de l'administration Trump et notamment du juge anti-avortement Brett Kavanaugh à la Cour suprême. En 2020, Kamala Harris se présente à la présidentielle mais sa campagne tourne court. Faute d'argent au plus bas dans les sondages, elle jette l'éponge avant même le début de la primaire. Mais après les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020, Joe Biden l'a choisie comme colistière. Kamala Harris devient alors la première femme noire vice-présidente des États-Unis, première aussi dans l'ordre protocolaire de succession en cas de défaillance du plus vieux président des États-Unis. David Thompson, Miami RFI.
Si Joe Biden a franchi le pas ce week-end, s'il a renoncé, c'est aussi parce que le doute s'était installé chez les riches donateurs du Parti démocrate. Écoutons sur ce point un spécialiste des États-Unis, Corentin Célin, invité ce matin de RFI.
C'est effectivement davantage une décision des gros donateurs. C'est d'abord eux qui se sont retournés contre Joe Biden parce que ils pensaient que leur argent ne serait pas bien utilisé par un candidat dont les chances paraissaient vraiment de plus en plus minces. Donc oui, c'est vraiment ce levier de pression qui a lancé la machine et on voit donc des gros donateurs qui ont réussi à prévaloir par rapport à l'expression des votes des sympathisants et des militants qui avaient eu lieu lors des primaires.
Corentin Célin, interrogé par Nathalie Amar.
Et on revient justement sur les conséquences, sur les finances du Parti démocrate de ce retrait de Joe Biden à la course avec la Maison-Blanche, avec l'invité d'RFI Midi et Amérique Matin dans 10 minutes. Maintenant, ce sera Jérémy Guez. Mais pour l'heure, il est 19h04 à Dhaka et cette répression massive au Bangladesh, Gilles Moreau.
Oui, la police évalue à plus de 500 le nombre de personnes arrêtées à Dhaka, la capitale, après les manifestations violentes des derniers jours. Parmi elles, des dirigeants et des militants de l'opposition. Les tensions ne retombent pas au Bangladesh, même si le système des quotas de recrutement dans la fonction publique a été assoupli. C'est lui qui avait avait déclenché cette colère. Les rebelles yéménites ont promis une réponse impitoyable à ces frappes meurtrières, les frappes meurtrières d'Israël contre le port d'Hodeïda, un port toujours en flammes. Ces frappes ont elles-mêmes répondu à une attaque de drones meurtrières à Tel Aviv menée par les Houthis. C'est une nouvelle escalade régionale liée à la guerre dans la bande de Gaza. Eliot Braché a interrogé un spécialiste de la région, Hasni Abidi. Il dirige le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen.
Avec l'attaque des Houthis et la riposte israélienne, le Moyen-Orient a connu un changement important dans la mesure où les Houthis ont dépassé le périmètre naturel de leur frappe, c'est-à-dire en mer Rouge, c'est-à-dire s'attaquer à la navigation maritime, et ont atteint la profondeur israélienne, ce qui est considéré par Israël comme le dépassement d'une ligne rouge. Israël tient à cette règle de dissuasion, déjà en difficulté avec Gaza, mais aussi sous pression de Hezbollah, ne pouvait pas rester sans répondre. Et c'est cette riposte israélienne qui pose problème aujourd'hui à la communauté internationale dans la mesure où les Houthis sont prêts d'aller jusqu'au bout, en quelque sorte, d'arriver à une escalade dans la région parce que les Houthis cherchent cette situation pour plusieurs raisons internes et externes. C'est pourquoi on observe une certaine retenue internationale, commencée par les États-Unis, mais aussi par les pays du Golfe qui sont voisins du Yémen.
Toujours à propos d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou est en route pour les États-Unis où il doit prononcer un discours annoncé comme important devant le Congrès. Dans le même temps, et selon un communiqué de l'armée israélienne, une partie des habitants de Khan Younes, ville du sud de la bande de Gaza, ont reçu l'ordre d'évacuer leur logement avant, je cite ce communiqué, une opération intensive contre des organisations terroristes.
Et on en vient à présent à cette déclaration du président français Emmanuel Macron qui précise, je cite, que tout est prêt.
Oui, tout est prêt à 4 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, vendredi, sur la Seine. Le président visitait ce matin le village des athlètes à Saint-Denis, au nord de la capitale. Ce village se remplit petit à petit. Il compte déjà plus de 4000 occupants pour un total attendu de plus de 14 000. Emmanuel Macron était accompagné ce matin de plusieurs membres du gouvernement, les ministres de l'Intérieur et des JO qui gèrent l'événement au titre des affaires courantes de la France. Interrogé par les journalistes sur la situation politique en France, on ne connaît toujours pas le successeur de Gabriel Attal au poste de Premier ministre. Emmanuel Macron a évoqué une trêve politique à l'occasion des Jeux Olympiques. Sachez aussi qu'à ces Jeux, la délégation israélienne est la bienvenue, déclare le ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné. Déclaration en forme de mise au point près des propos polémiques d'un député de la France insoumise, Thomas Porte, ayant affirmé le contraire.
Et de la musique à présent avec le dernier album d'Eminem, le célèbre rappeur américain, Gilles.
Oui, et dans ce 12e album studio, Eminem revient sur son début de carrière. Il raconte sa lutte contre ses addictions, ainsi que le double maléfique qu'il s'était créé, le fameux Slim Shady, Laura Blairé.
Dans les années 90, un certain Eminem, rappeur originaire de Detroit, essaie de se faire un nom plus largement aux États-Unis. Il se crée alors un personnage scandaleux grâce auquel il pourrait exprimer librement sa colère. Slim Shady est né. Le succès est immédiat, oui, mais voilà, le revers de la médaille est tranchant. C'est une période sombre que son début de carrière pour Marshall Mathers, le vrai nom d'Eminem, addiction aux drogues et à l'alcool, puis aux médicaments, avant de rebondir avec son album Recovery en 2010, qui marque une rupture, un retour à un rap plus apaisé et plein d'introspection, mais aussi plus grand public. Cet été 2024, Eminem sort son 12e album, The Death of Slim Shady, qui est à cheval entre ses deux styles de rap, ses deux personnalités. Paroles acerbes voire choquantes sur certains morceaux comme Habits. Musique plus touchante et plus consensuelle dans la suite de l'album comme sur Temporary. L'histoire est captivante, Marshall Mathers désormais sobre vaincra-t-il ses démons, ses addictions, son personnage haineux à qui il doit son début de carrière? La réponse est à découvrir dans l'album.
Death of Slim Shady, c'est le nouvel album d'Eminem. Et tout de suite, sans maléfice aucun, c'est Stéphane Genest qui vous accompagne, ni Addiction qui vous accompagne sur RFI.
C'était le journal avec vous, Gilles Moreau. Merci Gilles. Il est 15h10 ici à Paris, 9h10 à Washington.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Et ce coup de tonnerre dans la campagne présidentielle américaine en 2024 ne sera donc pas le match retour de 2020. Joe Biden a fini par céder à 4 mois de l'élection. La pression qui était vraisemblablement devenue trop forte. Joe Biden ne sera pas le candidat démocrate au scrutin, affaibli par son état physique et cognitif. Les États-Unis qui se réveillent donc avec cette nouvelle et ses conséquences. On évoque cela avec vous, Guillaume Nodin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes notre envoyé spécial permanent à Washington. Alors Guillaume, immédiatement après son retrait, Joe Biden a apporté son soutien à sa colistière et à sa vice-présidente Kamala Harris.
Oui, mais cela ne veut pas nécessairement dire que c'est elle qui sera la candidate, et ce n'est certainement pas à Joe Biden de désigner qui va lui succéder. Le président du Parti démocrate national, Jamie Harrison, élu de Caroline du Sud, explique que le parti va mettre en place une procédure claire et ouverte et transparente pour désigner un candidat. Une réunion est prévue mercredi, et c'est d'ailleurs ce que demande Barack Obama, qui n'a pas cité le nom de Kamala Harris dans le communiqué qui rend hommage à Joe Biden après avoir fait savoir que son ancien vice-président devait s'interroger sur la viabilité de sa candidature. S'il y avait une convention ouverte, cela pourrait intéresser des gens qui se voient un destin national. La gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, dit qu'elle fera tout pour faire élire des démocrates, sans préciser qui. Et puis le sénateur de la Virginie-Occidentale, Joe Manchin, 76 ans, qui avait annoncé ne pas briguer à nouveau son siège et se déclarer désormais comme indépendant, était apparemment intéressé à revenir dans le giron démocrate pour éventuellement briguer la nomination. Il vient ce matin d'annoncer que ce ne sera pas le cas.
Et pour l'instant, Guillaume Nodin, la seule candidate déclarée, c'est bien Kamala Harris.
Oui, elle se dit déterminée à mériter et à remporter la nomination de son parti. Selon des informations de presse, elle a passé la journée de dimanche à discuter avec les membres démocrates du Congrès, les responsables du parti et autres gouverneurs pour obtenir leur soutien. Et pour l'instant, ça marche. Ils sont presque 200 maintenant à la soutenir officiellement, y compris des gens dont on connaît les ambitions nationales, comme par exemple le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, ou celui de la Pennsylvanie, Josh Shapiro, plus souvent vu comme un possible colistier. De même que le gouverneur du Kentucky, Andy Beshear. Il y a quelques instants, les élus afro-américains du Congrès lui ont déjà apporté leur soutien, ainsi que plusieurs organisations syndicales. Les ténors du parti, eux, sont un peu plus prudents pour l'instant, même si les numéros 2 et 3 du groupe démocrate à la Chambre viennent de lui apporter leur soutien. La candidature de Kamala Harris aurait l'avantage de simplifier les choses. Elle aurait plus facilement accès au trésor de guerre de la campagne Biden, dont elle faisait partie. Et d'ailleurs, depuis l'annonce du président, les dons en faveur du Parti démocrate se sont envolé plusieurs dizaines de millions de dollars en quelques heures. Bref, c'est assez bien parti, mais ce n'est pas encore fait.
Alors, de leur côté, les Républicains, eux, ont pris les devants. Hein, Guillaume, ils s'étaient déjà préparés à son éventuelle nomination.
Oui, depuis quelques jours, ils ont renforcé leurs attaques contre la vice-présidente. Dans une publicité récente, ils expliquaient que voter Biden, c'était avoir finalement Harris, dont ils soulignent l'incompétence depuis qu'elle a été élue, selon eux. Donald Trump explique que ce sera encore plus facile de la battre que de battre Joe Biden, mais il se plaint aussi d'avoir à refaire toute sa campagne. Il demande même le remboursement des frais engagés pour dépeindre l'actuel président en vieillard sénile et incompétent. C'est que désormais, à 78 ans, le plus vieux candidat à la présidence de l'histoire des États-Unis, ce n'est pas Joe Biden, c'est Donald Trump. Et c'est un renversement de situation que les démocrates devraient se faire un plaisir d'exploiter.
Guillaume Nodin, en direct de Washington. Merci Guillaume. Alors cette annonce de Joe Biden a évidemment fait réagir, réaction d'électeurs démocrates notamment. Que pense-t-il de ce soutien du président Joe Biden à Kamala Harris? Loubna Anaki a recueilli leurs premières impressions dans les rues de New York.
Joe Biden qui se retire de la course à la présidentielle, ce n'est pas vraiment une surprise pour ces New-Yorkais.
Le déclin de ses facultés ne faisait aucun doute et je pense qu'il a bien fait de se retirer et même qu'il aurait dû le faire un peu plus tôt.
Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée qu'il se retire, mais honnêtement, je suis contente qu'il le fasse.
Je pense que Biden aurait dû se retirer il y a longtemps pour vraiment laisser une chance aux démocrates.
Dans cette ville traditionnellement acquise aux démocrates, certains pensent justement que la décision de Joe Biden pourrait permettre de gagner l'élection face à Donald Trump. Mais le choix de Kamala Harris pour remplacer le président sortant ne fait pas forcément l'unanimité.
Je crois vraiment qu'elle est un meilleur choix que Joe Biden, surtout après le débat face à Donald Trump. Elle est plus jeune et donc plus proche des électeurs de ma génération, et je pense qu'elle peut battre Donald Trump.
Je ne pense pas que les Américains sont prêts pour une femme présidente, et encore moins une femme présidente noire.
Une femme noire présidente, certains New-Yorkais veulent tout de même y croire. Ce serait une première historique aux États-Unis, mais pour cela, Kamala Harris va devoir remonter dans les sondages. Jusqu'ici, elle réalisait à peu près les mêmes scores que Joe Biden, qui était à la traîne face à Donald Trump dans de nombreux États clés. Loubna Anaki, New York, RFI.
À New York, où il est 9h15. Et on va justement prendre le pouls de la presse américaine après cette annonce. Avec vous, Antoine Galen. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Les éditorialistes qui saluent d'une part cette décision de Joe Biden, d'autre part ils s'interrogent sur la candidature de Kamala Harris, certains réclamant une primaire ouverte lors de la convention des démocrates d'ici un mois. On évoque cela avec vous dans un instant. En tout cas, ce matin, c'est bien le visage de Joe Biden qui est à la une des quotidiens américains. Joe Biden tire sa révérence pour le New York Times avec une grande photo du président américain, visage fermé. Lunettes de soleil sur le nez qui descend d'un avion. Il en est de même pour le Washington Post. Biden quitte la course, le quotidien de la capitale américaine, qui consacre aussi un large encadré aux démocrates qui commencent à se rallier à Kamala Harris après l'annonce de Joe Biden. Et puis à l'ouest, en Californie, le quotidien hispanique de Los Angeles, La Opinion, affiche Kamala Harris et Joe Biden enlacés, tout sourire. Une photo d'archive, hein, évidemment, avec en titre « Je me retire pour le bien du pays ». Antoine Galen, donc, vous avez lu la presse américaine également, voilà pour les unes. Antoine, les journaux américains et les éditorialistes qui tempèrent cette annonce.
Oui, selon le New York Times, se retirer est une façon de sauver la face. Le journal cite plusieurs noms comme Woodrow Wilson, Franklin Roosevelt ou encore Ronald Reagan qui se sont accrochés, je cite, à leur position dorée. Même si le journal aurait espéré que Joe Biden jette l'éponge plus tôt, il a eu le courage de laisser sa place et pour le journal new-yorkais, c'est le plus important. Le Washington Post insiste aussi sur la responsabilité de Joe Biden. Le président a une certaine conscience de soi qui fait trop souvent défaut dans la politique américaine. Pour le Boston Globe, même son de cloche, Joe Biden a fait passer le pays avant son ego et cela conclut sa carrière politique avec un exemple historique d'altruisme.
Et Antoine Galen, certains quotidiens se questionnent justement sur la capacité de Donald Trump à exercer, ils appellent précisément à sa démission.
Oui, le New York Post, soutien de Donald Trump, est exaspéré par l'actuel président. S'il avait le moindre respect pour la fonction qu'il occupe, pour le peuple américain, pour notre république ou pour lui-même, Joe Biden démissionnerait immédiatement de la présidence. Le très conservateur Washington Times reprend les attaques des détracteurs du président en disant que ce dernier s'accroche au code nucléaire en refusant de démissionner. Toutefois, pour le Los Angeles Times, l'argument de la démission est fallacieux car cela ne signifie pas qu'il ne soit pas en mesure de terminer son mandat. Plutôt que de démissionner, Joe Biden a tenu sa promesse de 2020, être un pont vers une génération de dirigeants démocrates.
Et comment est vu le passage de flambeau par la presse américaine ?
Eh bien, USA Today s'interroge justement les démocrates. Ont-ils oublié à quel point Kamala Harris a été extrêmement impopulaire en tant que vice-présidente ? Le Washington Post estime que Kamala Harris est la principale prétendante à l'investiture démocrate avec les errements et les renaissances. L'histoire ouvre une porte. Le journal invite le camp démocrate à ouvrir un vrai débat pour choisir son ou sa candidate, même si Kamala Harris part grande favorite. Enfin, le New York Times titre Kamala Harris ou l'échec. Selon le journal, c'est la seule option pour le remplacer. La Convention nationale démocrate n'est pas le moment de contester sa capacité à prendre la relève. Le moment de le faire, c'était en 2020.
Le tour des journaux américains avec vous, Antoine Galen. Et on se penche à présent sur un autre aspect non négligeable de ce retrait de Joe Biden dans la course à la présidentielle américaine. La question du financement de la campagne, de celle ou de celui qui prendra la relève, puisque les finances sont au cœur des campagnes électorales aux États-Unis, c'est le nerf de la guerre. On vous en a longuement parlé sur RFI ces dernières semaines. Joe Biden qui avait été lâché par de grands donateurs d'Hollywood, par exemple. Mais le ticket Biden-Harris avait tout de même accumulé des fonds de campagne. Alors cette question, que deviennent-ils aujourd'hui? On en parle avec vous, Jérémy Guez. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris. Il va falloir trouver une solution pour ces fonds initialement destinés à la campagne de Joe Biden. Est-ce que ces fonds sont gelés ou vont-ils aller maintenant ?
Donc aujourd'hui, Joe Biden va libérer ses délégués. La campagne de Joe Biden va être démantelée peu à peu. Ces fonds, ils vont pouvoir de toute façon transiter du côté de Kamala Harris. Depuis l'annonce de la suspension de la campagne de Joe Biden, le clan Harris a réussi, et y compris d'ailleurs le Parti démocrate, une levée de fonds absolument extraordinaire en l'espace de 24 heures. C'est probablement
47 millions de dollars à peu près.
Exactement, pratiquement 50. Et donc, c'est dire à quel point il y a un engouement, non seulement de la part de la base qui peut contribuer à ces fonds, mais peut-être aussi de ces grands donateurs qui s'attendaient à une rupture de la part des démocrates, justement pour que les démocrates puissent regagner un petit peu de dynamisme de leur côté. Ce qui est absolument frappant, c'est que depuis hier soir, eh bien, on est rentré dans un nouveau chapitre de la campagne qui pourrait mobiliser tous ces donateurs, qu'ils soient petits ou grands.
Et vous expliquez justement que ces dons explosent pour soutenir Kamala Harris depuis l'annonce du retrait de Joe Biden. Est-ce qu'on sait d'où viennent ces fonds ? Il y a les petits donateurs ou c'est peut-être le retour des certains grands donateurs qui avaient précisément quitté le navire ces dernières semaines ?
Alors, je pense que c'est un mélange des deux, et on voit que c'est un mélange des deux. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y en avait un certain nombre, effectivement, qui n'étaient pas inspirés par cette candidature de Joe Biden, qui finalement, une candidature qui s'inscrivait dans la droite ligne de 2020, mais les choses ont beaucoup changé depuis 4 ans. On ne parle plus de Covid, on ne parle plus forcément des excès de Donald Trump en face, puisqu'il n'est plus au pouvoir depuis 4 ans. Donc, cette base-là, a des raisons d'être inspiré, que connaît un engouement. Et après, il y a les grands donateurs, je vous dirais, qui commencent à se rendre compte, finalement, qu'il y a une alternative à la victoire sans appel de Donald Trump. Et qui, aujourd'hui, vont probablement regarder...
De Joe Biden,
Kamala,
vous voulez dire.
Excusez-moi. Oui, pardon. Et qui vont regarder, effectivement, la présidence de Kamala Harris avec un œil interrogateur, mais ouvert sur ce que le Parti démocrate peut incarner en 2024.
Et justement, ces gros donateurs, ils avaient mis une grosse pression à Joe Biden ces dernières semaines, et ils ont leur mot à dire. Est-ce qu'ils pourraient, dans l'autre sens, orienter le nom du futur candidat ou de la candidate de nom de colistier ?
Alors, je pense qu'il faut toujours se méfier des explications monocausales. Bien entendu, les donateurs sont là pour influencer l'issue de la campagne, notamment une campagne primaire. Là, dans ce cas présent, on est vraiment dans un contexte inédit, puisque cette nouvelle primaire, elle va avoir lieu de manière extrêmement concentrée pendant la convention démocrate le mois prochain. Et donc, effectivement, la fenêtre de tir est probablement beaucoup plus réduite. Mais il peut y avoir des bras de fer, effectivement, qui vont s'engager avec un certain nombre de préférences. Maintenant, encore une fois, gardons-nous des explications monocausales. Il y a aussi l'esprit et la tradition américaine qui veut que quand le président ne puisse pas se présenter, que la vice-présidente est quand même l'héritière logique, et c'est le cas de Kamala Harris. Et je pense qu'il y aurait aussi un problème politique énorme, et les donateurs le savent, qui est de se dire aujourd'hui, il y a une candidate légitime, qui est une femme, qui est issue des minorités américaines. Je pense que politiquement, ça serait diablement compliqué pour les démocrates aujourd'hui de dire qu'il faut sauter le tour de Kamala Harris, pour le dire simplement. Donc je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui vont être source de turbulences, mais les donateurs en sont une, mais pas les seuls.
Le décryptage et l'analyse de Jérémy Guez, professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris sur RFI. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de RFI Midi.
Le journal de l'Outre-mer.
Avec vous, Benoît Ferrand, avec à la une la Chambre de commerce et d'industrie des îles de Guadeloupe, qui a présenté vendredi dernier son service d'aide aux entreprises en difficulté, Benoît.
Un service qui va sans doute, hélas, être très sollicité, car la situation de l'économie guadeloupéenne n'est pas très florissante en ce moment. Cela risque même, dit-on, de s'aggraver dans les mois qui viennent. Alexandre Houda.
Avec un accroissement record des entreprises en difficulté, mais aussi du nombre de cas de surendettement des ménages, ainsi que la diminution du panier moyen des consommateurs, un durcissement économique pourrait intervenir avant la fin de l'année. Pour les entreprises qui subissent de plein fouet le contre-coup de la crise Covid, un accompagnement peut leur être apporté avant qu'il ne soit trop tard. Patrick Vialcollet, président de la CCI des îles de Guadeloupe.
Nous avons des solutions, solutions amiables, solutions qui sont dans le cadre de procédures, solutions de saisine du codéfi, la médiation du crédit, autant d'éléments qui permettent aux chefs d'entreprise de pouvoir renégocier la dette.
C'est le socle de l'économie, à savoir les très petites entreprises qui payent le plus lourd tribut. Pour les entrepreneurs qui sont à leur tête, il va falloir accepter l'idée de voir disparaître certaines de leurs sociétés. Edith Evrilus, présidente de la commission des très petites entreprises à la CCI.
Nous allons prendre l'humain, nous allons prendre l'humain dans sa globalité et lui dire, voilà, si vous perdez l'entreprise, ce n'est pas une fin en soi. Il faut quand même réfléchir sur le rebond.
Un numéro vert sera prochainement mis en place à l'intention des chefs d'entreprise qui veulent solliciter les services de la CCI des îles de Guadeloupe.
Après 10 mois d'absence, les couleurs d'Errantí, de la nouvelle Errantí, flottent de nouveau entre la Guadeloupe et la Martinique. Le premier vol a décollé tôt ce matin de Fort-de-France, direction Pointe-à-Pitre. À la grande satisfaction du PDG de la compagnie, Jérôme Arnaud, il est au micro de Jesse Blanquet.
Il y avait déjà eu une autre étape, celle du redémarrage des vols en tout hauteur entre la Guadeloupe et Saint-Barthélemy. Et c'est maintenant au tour de la Martinique, de la Guadeloupe et de Saint-Martin d'être reliés avec les ATR d'Errantí. C'est une source de satisfaction pour, bien entendu, l'équipe Errantí, mais aussi pour les Antillais qui vont pouvoir avoir le choix dans leur transporteur et pouvoir bénéficier d'un service différent. Et donc, on est vraiment heureux de pouvoir retrouver nos clients et de pouvoir desservir ces destinations. Donc, à partir de ce 22 juillet et avec un programme qui, au début, sera un peu allégé et qui va venir se compléter au fur et à mesure du temps, avec l'arrivée de nouveaux avions et puis avec la croissance du taux de remplissage, la mise en place des codes chers avec des compagnies long courrier. Et donc, c'est finalement notre promesse, celle de desservir les Antilles pour les Antillais qui est en train de se réaliser ce lundi 22 juillet.
Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand, très bon après-midi à vous aussi. C'est ainsi que se referme RFI Midi. Merci à vous de l'avoir suivi à la réalisation. Aujourd'hui, Mathieu Badre, merci à lui. On finit en musique avec Catalina de Sima Funk et Monsieur Périnet, morceau sorti en 2024.
Si se complica, que se complique.
Está desacatado. Me lleva a la cima y me deja temblando con ese tumbao. Vacila y vacila con ese cuerpero tan arrebatado. De puro melao. Oye, pelao. Ese melao es pa' mí.
Catalina, qué problema. Me tienes el sueño quitado, pero vale la pena. Es una talla perfecta, linda, suelta. Desde temprano necesito eso. Desde tempranito tu beso.
Tú tienes el flow que conecta. Rico, suelto. Pura medicina pa' mi corazón. Y vitamina pa' mi cuerpo.
Yo necesito de ti todos los días. Tu ahora tu agüita y panela me mata. Ay, me mata.
Catalina, tu problema. Pero vale la pena, pura agüita de panela. De día te curo las seis, en la noche te doy candela. Catalina, tu problema, te tengo el sueño quitado, pero vale la pena, pura agüita de panela, de día te curo las seis, en la noche te doy candela.
Dame candela, dame candela, ya, tú sabes que...
Catalina de Simafunk sur RFI avec Monsieur Périnet, un morceau qui date de 2024, ça fait quelques semaines que c'est sorti. Vous restez avec nous sur RFI, 15h30 ici à Paris, dans une poignée de secondes, de vive voix sur la radio du monde.
RFI, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, au cœur de l'événement du 26 juillet au 8 septembre.
Où que vous soyez dans le monde, toutes les équipes et rédactions de RFI et RFI.fr vous invitent à cette grande fête universelle du sport à travers une programmation et un dispositif exceptionnel. De nombreux rendez-vous dédiés et nos magazines habituels habillés aux couleurs des Jeux vous font vivre les compétitions, les cérémonies et les coulisses de l'événement en français et en